これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antaven avec Paola Reymann.
À la réalisation, François Connac.
Et à la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Comment s'aimer quand rien ne nous en empêche ? Comment vivre son amour quand tout le monde est d'accord ? Comment aller au bout de son cœur quand il n'y a aucun obstacle ? Si rien n'est plus difficile que de ne pas se compliquer la vie, c'est que parfois, rien n'est plus délicieux que de le faire. C'est à ce délice que nous vous invitons ce dimanche en parlant du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, un jeu au terme duquel l'ordre social et son corrélat sentimental sont soigneusement préservés, mais qui entre-temps expose ses protagonistes au risque considérable d'aimer celle ou celui qui n'est pas à la même place que soi. Marivaux décrit-il dans cette pièce le triomphe de l'amour ou la victoire de l'ordre ? Eh bien, c'est à vous d'en juger.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Qu'y a-t-il de nouveau, monsieur ? Je commence par vous recommander d'être discret sur ce que je vais vous dire, au moins.
Je suivrai vos ordres.
Nous verrons de rente aujourd'hui. Mais nous ne le verrons que déguisé.
Déguisé ? Viendra-t-il en partie de masque ? Lui, donnerez-vous le bal ?
Écoutez l'article de la lettre du père. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. Elle est bizarre, il en convient lui-même. Mais le motif en est pardonnable et même délicat. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui de son côté fera le personnage de son maître.
Cela sera plaisant.
Écoutez le reste. Mon fils sait combien l'engagement qu'il va prendre est sérieux et il espère, dit-il, sous ce déguisement de peu de durée, saisir quelques traits du caractère de notre futur et la mieux connaître pour se régler ensuite sur ce qu'il doit faire suivant la liberté que nous sommes convenus de leur laisser. Pour moi, qui m'en fie bien à ce que vous m'avez dit de votre aimable fille, j'ai consenti à tout en prenant la précaution de vous avertir, quoiqu'il m'ait demandé le secret de votre côté. Vous en userez là-dessus avec la future comme vous le jugerez à propos. Voilà ce que le père m'écrit. Ce n'est pas le tout. Voici ce qui arrive. C'est que votre sœur, inquiète de son côté sur le chapitre de Dorante, et dont elle ignore le secret, m'a demandé de jouer ici la même comédie, et cela précisément pour observer Dorante. Comme Dorante veut l'observer. Qu'en dites-vous ? Savez-vous rien de plus particulier que cela ? Actuellement, la maîtresse et la suivante se travestissent. Que me conseillez-vous, Mario ? Avertirai-je votre sœur ou non ?
Bah non, Sylvia sera pas avertie avant l'acte 2.
Avant la fin de l'acte 2. Oui, avant la fin de l'acte 2. Le père choisira de ne pas avertir sa fille du stratagème de Dorante dans la mesure où elle a eu la même idée. En d'autres termes, et il faut le redire très rapidement pour nos auditeurs qui viennent d'entendre Orgon, c'est Michel Etcheverry qui incarne Orgon à merveille dans la mise en scène de Jean-Paul Roussillon. On est au Français en 1976. Une mise en scène, je dois dire, qui ne fait pas l'intéressante, c'est-à-dire qui ne recouvre pas le texte de ses propres audaces narcissiques. C'était, à mon sens, une belle époque. Le fait est que le père, Orgon, choisit de ne pas avertir sa fille, de ne pas la prévenir, ce qui le met, lui, dans la position du marionnettiste. Hein.
Oui, du metteur en scène, c'est Marivaux.
C'est Marivaux. C'est évidemment Marivaux. Vous avez tout à fait raison. C'est Marivaux. Rappelons donc la situation. Dorante et Arlequin, ou Pasquin, ça dépend, arrivent dans la maison d'Orgon pour épouser donc Dorante, Sylvia et éventuellement Arlequin, Lisette, c'est-à-dire la suivante de Sylvia. Et Sylvia et Dorante ayant l'un et l'autre ce goût presque futuriste avant-gardiste. En tout cas, qui est le propre des enfants. Ce goût pour les qualités du caractère ou les qualités du cœur, au-delà des grandeurs d'établissement, veulent tester la vertu et la noblesse, justement, mais la noblesse du cœur, de leur promis ou de leur promise.
Mais on peut se demander d'ailleurs si dès le début, ils ne sont pas déjà faits pour s'aimer et ça pourrait être plié, ils ont la même idée dès le début.
Mais bien sûr. Mais c'est une pièce
symétrie totale.
Symétrie totale. Ils ont la même intention. Vous avez tout à fait raison. Tout est écrit d'emblée. Dans l'histoire, Dorant et Sylvia sont faits pour s'entendre. Ils sont faits pour s'aimer puisqu'ils se jouent la même farce l'un à l'autre. Mais ils ont besoin. Alors, ils sont faits pour s'aimer d'abord à ce titre-là. Et vous avez tout à fait raison de le dire. Mais, et c'est l'une des ambivalences de la pièce sur laquelle on reviendra abondamment dans cette émission, Paola, sont-ils faits pour s'aimer aussi dans la mesure où ils sont du même milieu, de la même classe sociale? Autant, quand on parlait de Coriolan, il me semblait qu'une lecture par classe sociale manquait la grandeur de Coriolan, qui ne tenait pas tant au fait qu'il était patricien qu'au fait qu'il était tout simplement noble de cœur. Autant ici, c'est l'évidence, il faut faire une lecture de classe, puisque ce sont les Saturnales, le jeu de l'amour et du hasard. Ce sont les Saturnales, c'est le moment où les esclaves jouissent d'une liberté qu'ils n'ont pas d'habitude. Enfin, je parle des Saturnales à Rome, hein. Donc évidemment, c'est plus des esclaves, ce sont des domestiques, mais on n'est pas loin quand même. C'est le moment où les esclaves jouissent d'une liberté totale et où ils sont capables de dire leur fait au maître, où ils ont l'autorisation et même le devoir de dire au maître leur fait. Et
temporairement.
Voilà, temporairement. Tout est dans le caractère temporaire de ce privilège, dans cette suspension. C'est un peu comme la journée de la femme, si vous voulez. C'est-à-dire que pendant un jour, on n'a pas le droit d'être misogyne et puis les 364 autres, on peut y aller de bon cœur. Là, c'est pareil. Pendant un jour, les esclaves ou les domestiques peuvent se prendre pour les maîtres. Puis le reste du temps, l'ordre social retrouvera sa place. Mais dans l'intervalle, et c'est ça qui est formidable, ces deux individus, Dorante et Sylvia, qui ont le même caractère, qui ont la même fantaisie, qui ont les mêmes idées et qui ont la même position sociale, qui sont à tous égards faits pour s'entendre et donc pour se marier dans ce monde-là, traversent, expérimentent des circonvolutions, se compliquent la tâche tout seuls d'une façon extraordinaire, comme s'il fallait en passer par la médiation de la complexité pour en venir enfin à la simplicité d'un amour ou bien à la rigidité de l'ordre social.
D'ailleurs, on a entendu dans l'extrait, on entend les rires des deux femmes qui se travestissent. Ça commence vraiment comme un jeu, c'est très plaisant, comme le dit, je ne sais plus si c'est Mario ou Orgon. Et puis, comme vous l'avez dit, ça se complique et ça devient presque parfois très douloureux pour... Pas pour tous les personnages, il y en a qui s'amusent beaucoup, mais il y en a pour lesquels ils traversent des moments assez douloureux et beaucoup plus sombres que la tonalité première.
On va les voir ces moments-là, on va les entendre, parce que oui, c'est douloureux. Par exemple, c'est douloureux quand Dorante se présente à Sylvia, Bourguignon. Donc il se présente sous le nom de Bourguignon, c'est le nom du valet qu'il s'est donné, c'est le nom qu'il s'est... c'est son nom de scène en fait, c'est son nom d'emprunt. Voilà, je suis Bourguignon, je ne suis pas Dorante, je suis Bourguignon. Et Bourguignon, il est charmant, il est élégant, il est noble, il est digne, alors qu'évidemment son maître, Arlequin, enfin son maître d'une journée, Arlequin, c'est-à-dire en vérité son domestique, se conduit, lui...
Comme un goujat.
Comme un goujat, comme un mufle formal, et c'est assez drôle. Mais Bourguignon, parlant à Sylvia, séduit Sylvia. Séduit Sylvia, à tel point que Sylvia voit émerger en elle un sentiment qu'il est tout à fait inapproprié d'éprouver pour un laquais. Et c'est là qu'elle souffre. C'est là qu'elle ne peut pas admettre quelque chose. Il y a quelque chose d'impossible là-dedans. La souffrance lui vient du sentiment qu'elle éprouve pour un laquais jusqu'au moment où elle s'aperçoit qu'il s'agit en fait de Dorante et où elle a cette phrase extraordinaire « J'avais bien besoin que ce fût la Dorante ».
Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse... Te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi.
Bourguignon, cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs, n'est-il pas vrai?
Ma foi, je n'étais pas venu dans ce dessin-là, je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec les soubrettes. Je n'aime pas l'esprit domestique. Mais à ton égard, c'est une autre affaire. Comment donc? Tu me soumets? Je suis presque timide. Ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi. J'ai toujours envie d'ôter mon chapeau de dessus ma tête. Et quand je te tutoie, il me semble que je jure.
Marivaux est le premier, même s'il use du travestissement des personnages pour pouvoir le faire, à faire parler des maîtres, enfin, les personnages de maîtres, via le tutoiement, ce qui est...
Il se régale, hein. Il se régale à le faire. Quand on lit les pièces de Molière, par exemple, ou Beaumarchais, enfin, les maîtres entre eux, mais même quand ils sont amoureux et quand tout est dit, hein, c'est rarissime quand ils passent au tutoiement. L'aveu d'une proximité de cœur n'autorise en rien une proximité grammaticale. On continue de se dire « vous », même quand on s'aime « je vous aime, madame ». Bon, parce que les maîtres se parlent entre eux de cette façon-là. Or, Marivaux, habillant les maîtres en livrée de domestique, habillant Sylvia en Lisette et Dorante en Bourguignon, s'y donne à cœur joie. Les maîtres se tutoient, et voilà une position complètement incongrue.
Et les voilà jetés dans un embarras pas possible aussi.
Alors, jetés dans un embarras pas possible, parce que Dorante constate que la Lisette, ou celle qu'il imagine être Lisette, n'a pas seulement des manières, et c'est cette ambiguïté qui est importante, n'a pas seulement des manières de grande dame, enfin, de maîtresse. Elle n'a pas seulement des manières de maîtresse, elle a un ton de maîtresse, elle a manifestement un cœur de maîtresse. Et le fait de faire valoir cela ou de faire sentir cela est aussi socialement conservateur, si j'ose dire, que le fait d'habiller les maîtres en livrée de domestique est progressiste, en un sens. J'aime pas ce mot, mais en l'occurrence, effectivement, c'est ça qui se passe. Dites-moi.
Je voulais dire que pour paraphraser Bourguignon-Dorante, on pourrait dire que Sylvia, même déguisée en Lisette, n'a pas l'esprit domestique.
Non, Sylvia, exactement. Elle n'a pas l'esprit domestique, parce qu'il déteste l'esprit domestique. Alors, deux choses l'une, là encore. Par esprit domestique, est-ce qu'il entend le fait d'être un domestique? Genre, moi, le domestique bourguignon, je vise plus haut que ma classe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme disait Lucien Gerfagnon, je respire plus haut que ma bouche. Et en d'autres termes, je vais... mes désirs me portent au-delà de cela. Bon, donc je n'aime pas l'esprit domestique, j'aime pas les domestiques. Mais je n'aime pas l'esprit domestique, c'est aussi... ne pas aimer l'absence de noblesse, mais cette fois-ci non pas au sens rigide et social du terme, mais au sens de l'aristocratie du cœur, qui caractérise les domestiques de toute classe, les esclaves de toute classe. Il y a autant de domestiques chez les aristocrates que d'aristocrates chez les domestiques, dans la mesure où on peut être un domestique et avoir de grandes qualités de cœur, on peut être un aristocrate et faire le calcul d'une bonne affaire en se mariant. C'est d'ailleurs en général ce qui se passe dans ces grandes familles, ou dans ces familles finalement, dans ces familles du XVIIIe siècle. Donc, quand il dit « je n'ai pas l'esprit domestique », il veut dire à la fois « je ne suis pas un domestique », en vérité, contrairement à ce que tu vois, contrairement à ce que ma livrée semble te dire, mais il veut dire aussi « je n'ai pas le tempérament de celui qui t'épouserait pour faire une bonne affaire ». Or, c'est exactement ce qui arrivera entre Harlequin et Lisette. L'un des deux, Lisette, la vraie Lisette, déguisée en Sylvia, tombant amoureuse du vrai Harlequin déguisé en Dorante, dira... entrevoyant la possibilité de l'épouser, mais mon Dieu, ma fortune est faite. Tout comme Harlequin, lui, se réjouit, mais Harlequin ne sait pas que Lisette n'est que Lisette. Mais Lisette, voyant Harlequin en situation de maître, se dit, c'est magnifique, ma fortune est faite. C'est le genre de raisonnement que Dorante ou Sylvia, déguisée en domestique, ne peuvent pas se faire, eux.
D'une certaine manière, je voudrais reprendre sur, puisqu'on était un peu dans la grammaire, sur
une... Pardon, Paola, juste un point. Il y a une scène comme ça très belle, la scène 9 de l'acte 2. Dorante vient parler à Sylvia et il lui dit ceci. Lisette, quelque éloignement que tu aies pour moi, je suis forcée de te parler, je crois que j'ai à me plaindre de toi. Bourguignon, ne nous tutoyons plus, je t'en prie. Comme tu voudras, tu n'en fais pourtant rien, ni toi non plus, tu me dis, je t'en prie. Or, la réponse de Dorante, comme tu voudras, est une réponse qui, pour l'anecdote, aurait inspiré François Mitterrand lui-même dans son débat contre Jacques Chirac en 1988. On va entendre d'ailleurs cet extrait, c'est intéressant. Jacques Chirac dit ce soir, de mémoire, hein, « Je ne suis pas votre Premier ministre, vous n'êtes pas le Président de la République. » Réponse de Mitterrand, « Vous avez parfaitement raison, Monsieur le Premier ministre. »
« Moi, je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans, et que vous l'êtes. Eh bien, en tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez... et c'est bien juste de le dire, de très réelle qualité, vous n'êtes pas celle de l'impartialité ni du sens de la justice dans la conduite de l'État.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seuls qui comptent. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Et là, elle lui dit, ne nous tutoyons plus. Il lui répond, comme tu voudras. L'histoire, l'anecdote, voudrait que François Mitterrand, savant lecteur de Marivaux et de Valérie Larbaud, ait eu cette intuition en lisant cette scène.
Je reprends sur mon parallèle grammatical. Je voulais dire que, d'une certaine manière, il n'y a pas de chiasme chez Marivaux, en fait. Il n'y a pas, les contraires ne s'attirent pas. On est presque tout le temps dans la tautologie, en fait, dans la symétrie.
On est tout le temps dans la tautologie. Encore une fois, et c'est vraiment le mystère, le miracle de cette pièce, comme du théâtre de Marivaux, qui est un théâtre génial par l'absence de problème. Disons, par les nœuds qu'il dépose sur l'absence de problème. Et le paradoxe, enfin ce qui est fabuleux, c'est qu'on pourrait croire que du coup c'est juste quelqu'un qui se complique la vie. Pas du tout. La vie est faite de cette façon-là. C'est-à-dire, combien de fois dans l'existence, combien de problèmes parmi les problèmes qu'on se pose dans la journée, ou dans la vie, ou dans les rapports humains, ou dans les rapports amoureux, relèvent du désir que nous avons de nous créer des problèmes. Marivaux est le dramaturge de cette propension du cœur humain à se fabriquer des problèmes qui n'existent pas, à se compliquer la tâche alors que tout est simple et que tout est là.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Alors, pour revenir sur cette question qui fait un peu la trame du débat sur la pièce entre conservatisme et progressisme, eh bien, la question de savoir si c'est une pièce conservatrice me rappelle le procès que Barthes fait au film de Kazan sur les quais, d'une certaine manière.
Oui.
Puisque c'est dans la résolution, on se souvient que ce que Barthes reproche à Kazan, c'est d'avoir fait agenouiller Marlon Brando face au grand patron. Et donc à la fin, il n'y a plus de révolte et tout revient dans le calme.
Comme Métropolis, c'est la même chose où l'ouvrier serre la main du patron dans une entente cordiale et où chacun se remet à sa place.
Exactement. Mm-hmm. Et là, de la même manière, c'est la résolution de la pièce qui en fait une pièce plus conservatrice qu'on aimerait le voir parfois.
C'est-à-dire c'est comme une boîte à musique qui s'ouvre. C'est une boîte, au départ, c'est un cube. Je veux dire, il n'y a pas d'aspérité, on ne peut rien faire, tout est là. Les maîtres sont les maîtres, les domestiques sont les domestiques. Et puis les maîtres ont la fantaisie de se déguiser en domestiques pour savoir si, au-delà de leur statut social, ils ont les qualités qui correspondent justement à leur titre. Et faisant cela, ils ouvrent la boîte à musique. La boîte à musique s'ouvre, joue un air délicieux, un air extraordinairement audacieux, un air dans lequel on entend une sorte d'inversion des rôles extraordinaire. Et puis la boîte se referme, le cube reprend son pouvoir, et les maîtres se retrouvent avec les maîtres, les esclaves avec les esclaves. Mais dans l'intervalle, ce qui se passe, ce qui se joue, est décisif. Décisif non pas parce que ça débouche sur un retour de l'ordre social ou sur une victoire ultime de la conservation de toute chose, mais parce que c'est un renseignement, encore une fois, sur la façon dont on se complique la vie. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde, de quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne ? C'est Lisette, si j'ai bonne mémoire, qui dit cela à Sylvia. C'est la domestique qui fait à Sylvia une leçon d'universel en lui disant « Mais mon cœur est fait comme celui de tout le monde, de quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne ?» Un peu plus loin, d'ailleurs, elle dit « Si j'étais votre égal, nous verrions. » En d'autres termes, pour qui vous prenez-vous ? Vous, ma maîtresse ? De considérer que vos sentiments sont à la hauteur de votre statut. Laissez-vous aller à aimer, laissez-vous aller à épouser, laissez-vous aller à conduire l'existence qu'il appartient à chacun, quelle que soit sa condition, de conduire. Pourquoi couper les cheveux en quatre ? Et alors, Sylvia, un peu plus loin, ayant l'intuition donc de ce déguisement, de ce subterfuge, déclare, franchement, je ne haïrais pas de lui plaire sous le personnage que je joue. Je ne serais pas fâché de subjuguer sa raison, de l'étourdir un peu sur la distance qu'il y aura de lui à moi. Si mes charmes font ce coup-là, ils me feront plaisir, je les estimerai. D'ailleurs, cela m'aiderait à démêler Dorante à l'égard de son valet. Je ne crains pas ses soupirs, ils n'oseront m'aborder. Il y aura quelque chose dans ma physionomie qui inspirera plus de respect que d'amour à ce faquin-là.
Oui, vous avez parlé de ton tout à l'heure, et là, il est carrément question de physionomie.
Carrément question de physionomie. Alors, c'est un passage où l'on trouve, en un sens, le meilleur et le pire du point de vue de l'ascenseur social, comme on dit. C'est intéressant de poser sur cette pièce une grille de lecture vaguement anachronique, c'est-à-dire les préoccupations, pour le coup, qui émergent avec l'émergence du phénomène démocratique en France et la Révolution française, et au-delà, le 19e siècle, c'est-à-dire surtout, en fait, la Seconde République. Sylvia commence par dire « Je ne serais pas fâché de subjuguer sa raison, de l'étourdir un peu sur la distance qu'il y aura de lui à moi. » Autrement dit, je ne serais pas fâché de lui imposer de m'aimer, bien que j'ai l'air d'une soubrette. Or, c'est elle qui va se retrouver en situation d'aimer un homme dont elle pense qu'il est un valet, ce qu'elle ne peut pas admettre. Et pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas l'admettre? Parce que dans la même tirade, elle dit un peu plus loin « Quant au valet, il y aura quelque chose dans ma physionomie qui inspirera plus de respect que d'amour à ce faquin-là. » Autrement dit, c'est une confiance de classe. Elle est abritée tranquillement derrière le sentiment que, évidemment, de toute façon, quand bien même elle serait habillée en soubrette ou en domestique, il y a en elle quelque chose d'inaliénable, qui dépasse le costume, l'habit ne fait pas le moine, il y a quelque chose en elle de supérieur à tout cela, il y a quelque chose qui transcende le vêtement qu'elle revêt, et ce quelque chose-là sera de nature à décourager le faquin qui, voyant quelqu'un de sa condition fort joli, voudra peut-être lui faire la cour. Elle n'a aucun doute là-dessus, elle n'a aucun doute sur le fait de conserver son identité par-delà son déguisement. C'est Superman, Sylvia. Vous voyez la trame de Superman, Paola. Vous n'êtes pas experte en super-héros, mais quand même, Superman, quelle est la particularité de Superman?
J'ai honte, oh là là.
Mais les journalistes, c'est Clark Kent.
Oui, c'est ça.
Sauf que son métier de journaliste, c'est une couverture. C'est-à-dire que c'est celui qui reste Superman, c'est Bill dans Kill Bill, à la toute fin de Kill Bill de Tarantino, qui explique ça à Uma Thurman pour lui expliquer qu'elle reste un assassin quand bien même elle voudrait être une mère exemplaire. Superman, c'est celui qui reste Superman, par-delà le costume du journaliste. Iron Man, par exemple, on en a déjà parlé, c'est celui qui devient Iron Man quand il enfile son armure. Donc, si vous voulez, dans un cas, on a un exosquelette, l'exosquelette d'Iron Man, qui est en fait un costume, et dans l'autre cas, on a un endosquelette ou une endo-identité qui est celle de Superman. Sylvia, c'est Iron Man qui se vit comme Superman. C'est celle qui, endossant le costume de la soubrette, devient la soubrette et qui pourtant continue de penser, par une sorte de confiance de classe, qu'elle demeure celle qu'elle est, par-delà celle qu'elle paraît. Et c'est de cette illusion que Marivaux, enfin c'est avec cette illusion-là que Marivaux se régale, comme il se régale très cruellement, je dois dire aussi, des espoirs de Lisette.
Oui, c'est la scène entre Orgon et Lisette, où Orgon, qui on l'a vu dans le premier extrait qu'on a entendu, est au courant de tout, manigance tout, et lui dit, si Dorante vous plaît tant, vous avez qu'à vous marier avec lui, puisqu'il vous aime.
Eh bien, alors, que vous importe, s'il vous aime tant qu'il vous épouse, scène 1 de l'acte 2. On va l'entendre, écoutez.
Eh bien, que vous importe, s'il vous aime tant qu'il vous épouse.
Quoi ? Vous ne l'en empêcheriez pas ?
Non, non, faut homme d'honneur, si tu le mènes jusque-là.
Monsieur, prenez-y garde. Jusqu'ici, je n'ai pas aidé à mes appâts, je les ai laissés faire tout seuls. J'ai ménagé sa tête, si je m'en mêle, je la renverse. Il n'y aura plus de remède.
Eh bien, renverse, ravage, brûle, enfin, épouse. Je te le permets, si tu le peux.
Ce pied-là, je compte ma fortune faite.
Est-ce que lorsque Lisette dit « Eh bien, ma fortune est faite », est-ce qu'il faut entendre les paroles d'une femme vénale ou plus naïvement, juste une réjouissance comme ça
Je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est cruel. Comme c'est cruel deux fois. C'est cruel vis-à-vis de Lisette, qui... Bon, elle tombe évidemment amoureuse d'Arlequin déguisé en Dorante. Sauf qu'elle croit que c'est Dorante. Mais comme c'est Arlequin, elle l'aime. Comme elle croit que c'est Dorante, elle est très contente de l'aimer. Donc, elle est enchantée. Parce que non seulement...
Et la réciprocité.
Bien sûr, et la réciproque est vraie. Mais non seulement elle rencontre un homme qu'elle aime, mais en plus, elle fait vraiment une bonne affaire. C'est-à-dire qu'en matière de promotion sociale, il n'y a pas mieux au XVIIIe siècle que de tomber amoureux de son maître. C'est mieux quand... l'équivalent, le pâle équivalent de ce genre de situation aujourd'hui, c'est... Ah bah tiens, toujours Iron Man d'ailleurs, l'assistante d'Iron Man, Pepper Potts, qui finit par épouser Tony Stark. Qui finit par être la femme de sa vie. C'est une promotion extraordinaire. Alors évidemment, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que l'important c'est l'amour, l'important c'est d'aimer, mais enfin bon, sa fortune est faite. Donc, cruauté numéro 1, Lisette c'est celle qui mêle à la pureté du sentiment qu'elle éprouve la vénalité d'une soubrette qui aimerait bien devenir patronne. Bon. Cruauté numéro 2. Orgon, le maître de sa maîtresse, c'est-à-dire le père de Sylvia qui, elle, est la maîtresse de Lisette. Laisse faire tout ça. Ce qui, si tout ça n'était pas qu'une blague, ferait de cette pièce un truc absolument scandaleux. C'est-à-dire l'idée que le maître de maison autorise l'alliance contre nature d'une soubrette et du prétendant de sa propre fille. Venu rencontrer sa fille, cette idée-là est complètement saugrenue. Or, ça passe comme une lettre à la poste. Lisette entend ça et elle se dit « C'est magnifique, ma fortune est faite. » Mais vous imaginez d'où elle va tomber quand elle va s'apercevoir qu'elle n'épouse que Arlequin, en définitive. Et certes, l'amour l'emporte, mais enfin tout de même, c'est quelqu'un qui, à l'instant de savoir véritablement qui est l'homme qu'elle aime, le découvre dans une déception inavouable. Parce que si cette déception entamait l'amour, ce serait le désaveu au fond de ce qu'il lui reste, à savoir la vérité d'un sentiment et les thèses qu'elle défendait à sa maîtresse au début. « Mon cœur est fait comme celui de tout le monde, de quoi le vôtre se mêle-t-il de n'être fait, je ne sais plus, comme celui de personne
?» La reconnaissance, excusez-moi, je voulais juste dire que la reconnaissance est... d'un certain point de vue, assez cruelle pour les valets et très plaisante pour les maîtres.
Oui, c'est tout à fait. Les maîtres s'amusent des valets dans l'histoire. Les maîtres s'amusent des valets, plus exactement. Orgon et Mario, le frère de Sylvia, s'amusent de Sylvia, mais également de Lisette. S'amusent des conséquences sur l'une comme sur l'autre de cela. Alors pour Sylvia, c'est « je vais tomber amoureuse d'un faquin », ce qui est invivable pour elle. On va le voir. Et pour Lisette, je vais tomber amoureuse d'un maître. Ce qui est merveilleux pour elle, jusqu'au moment où elle découvre qu'il n'en est rien. Et alors, le personnage de Sylvia, à cet égard, je crois, est très intéressant. Lisette, à un moment, dit à Sylvia la chose suivante. La scène est sublime. C'est la scène 7 de l'acte 2. C'est une scène dans laquelle Sylvia se fait dire par Lisette, Sylvia est tellement amoureuse de Dorante déguisée en bourguignon que, quoi que Lisette lui dise, de toute façon, cet amour apparaîtra, se manifestera. Soit elle lui dit « Donnez-vous le temps de voir ce qu'il est, voilà ce qu'on vous demande. » En d'autres termes, « Aimez-le par-delà sa livrée de domestique. » Et Sylvia dit « Mais enfin, de quoi se mêle-t-elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment pourrais-je aimer cet homme ?» etc. Soit elle dit « Bon, bah, très bien, n'en dites pas tant de mal, je ne savais pas qu'il vous énervait à ce point. » Auquel cas, Sylvia répond aussi « Mais enfin, de quoi se mêle-t-elle de considérer que cela m'énerve ?» Elle est totalement coincée. Du coup, comment réagit-elle? Très violemment. Elle est furieuse contre elle-même d'apprendre, en discutant avec Lisette, et la scène est vraiment admirable pour ça, à son corps et à son ADN défendant, qu'elle est amoureuse d'un valet. Écoutez-la.
« Moi, j'y entends finesse. Moi, je vous querelle pour lui. J'ai bonne opinion de lui. Vous me manquez de respect jusque-là. Bonne opinion, juste ciel. Bonne opinion, mais que faut-il que je réponde à cela? Qu'est-ce que cela veut dire? À qui parlez-vous? Qu'est-ce qui est à l'abri de ce qui m'arrive? Où en sommes-nous? Je n'en sais rien. Mais je ne reviendrai de longtemps de la surprise où vous me jetez.
Il y a des façons de parler qui me mettent hors de moi. Retirez-vous, vous m'êtes insupportable. Laissez-moi! Je prendrai d'autres mesures.
Oui, croyant dissimuler son amour à Lisette par son coup de chaud, coup de nerf, elle le fait transparaître.
Mais vous savez pourquoi? Parce que ça n'est pas à Lisette qu'elle dissimule son amour.
Oui.
C'est à qui?
C'est à elle-même.
Bien sûr, oui. Elle ne peut pas se l'avouer. D'ailleurs, elle est furieuse, Sylvia. Elle est furieuse, non pas parce qu'elle est prise à son propre jeu, elle n'en sait rien, ça. Puisqu'elle ne sait pas que Dorante, c'est Bourguignon et que Arlequin, c'est Arlequin, si vous voulez. Enfin, elle ne sait pas que les prétendants, les impétrants, comme dirait Arnaud Montebourg, se sont déguisés, ont eu la même idée qu'elle. Donc, elle ne le sait pas. Donc, elle ne sait pas qu'elle est prise à son propre jeu. En revanche, elle est contrainte au vrai à l'intérieur même de son déguisement. Et c'est ça qui l'énerve. C'est-à-dire que celle qui faisait valoir une identité aristocratique par-delà la livrée d'une soubrette, et celle qui ne supporte pas de découvrir la vérité de son sentiment par-delà le subterfuge qu'elle instaure. Celle qui, au départ, s'abrite derrière l'identité fixe et rigide de l'aristocrate, celle dont le cœur n'est pas altéré par la modification pelliculaire, saturnale et temporaire qui consiste à emprunter le costume de son esclave, celle qui, au départ, n'est pas du tout inquiète de cela, est rendue inquiète, non pas tant par le fait, encore une fois, qu'elle est prise à son propre jeu, mais par le fait que c'est la vérité qui l'emporte. C'est la vérité qui l'emporte, mais ce n'est pas la vérité à laquelle elle s'attendait. Ce n'est pas la vérité de sa classe qui l'emporte, c'est la vérité de son cœur. Et là, la pièce, pour le coup, est vraiment courageuse, socialement courageuse. Et d'autant plus, d'ailleurs, que en réaction à ce qu'elle sente en elle et à l'énervement que lui cause Lisette, qui n'est que le catalyseur de cette révélation qu'elle est bien obligée d'admettre, la réaction de Sylvia est de faire valoir, justement, de remettre de la hiérarchie là où, soudain, il n'y en avait plus, là où le cœur avait écrasé toute forme de différence sociale. Que dit-elle ?
Tiens, Bourguignon, une bonne fois pour toutes, demeure, va-t'en, reviens, tout cela doit m'être indifférent, et me l'est en effet. Je ne te veux ni bien ni mal, je ne te hais, ni ne t'aime, ni ne t'aimerai, moins que l'esprit ne me tourne. Voilà mes dispositions, ma raison ne m'en permet point d'autre. Je devrais me dispenser de te le dire.
Mon malheur est inconcevable. Tu m'ôtes peut-être tout le repos de ma vie.
Quelle fantaisie, il s'est allé mettre dans l'esprit. Il me fait de la peine. Reviens à toi. Tu me parles. Je te réponds. C'est beaucoup. C'est trop même, tu peux m'en croire. Et si tu étais instruit, en vérité, tu serais content de moi. Tu me trouverais d'une bonté sans exemple. D'une bonté que je blâmerais dans une autre. Je ne me la reproche pourtant pas, le fond de mon cœur me rassure. Ce que je fais est louable. C'est par générosité que je te parle. Mais il ne faut pas que cela dure. Ces générosités-là ne sont bonnes qu'en passant. Et je ne suis pas faite pour me rassurer toujours sur l'innocence de mes intentions. À la fin, cela ne ressemblerait plus à rien. Ainsi, finissons, Bourguignon, finissons, je t'en prie. Qu'est-ce que cela signifie, c'est se moquer. Allons. N'en soit plus parlé.
C'est aussi cruel lorsqu'elle dit « Il est généreux de ma part de te parler ».
Elle s'arrange comme elle peut avec les sentiments dont elle n'arrive pas à masquer les symptômes.
Voilà.
Elle fait passer pour de la générosité, ce qui est l'expression d'une dilection, comme disent les cuistres.
En tout cas, elle croit qu'il est l'ordre de son libre arbitre, de sa volonté, de ses décisions, de ne plus aimer Dorante, enfin Bourguignon.
De ne plus aimer Bourguignon.
Bourguignon.
Bah exactement, c'est un laquais, je ne peux pas l'aimer. Alors, est-ce que... Je vous vois venir, Paola, avec cette histoire de décision, parce que c'est un signe distinctif de ce qu'on a appelé le marivaudage. Le marivaudage, ce n'est pas les portes qui claquent, ce n'est pas les drames bourgeois, ce n'est pas le vaudeville, hein, le marivaudage. Ce n'est pas ça du tout. Il y a autant de différences entre le marivaudage tel qu'on l'entend, le vaudeville, la porte qui claque, etc., ou bien les sentiments qui font les malins. Il y a autant de différences entre le marivaudage tel qu'on l'entend et le sens qu'il faut lui donner quand on lit le théâtre de Marivaux, qu'entre l'épicurisme tel qu'on l'entend et l'ascète Épicure, lequel apprenait juste à se contenter de ce qu'on avait, qu'on ait beaucoup ou qu'on ait peu. Donc il y a autant de différences entre les deux, au fond. C'est même essentiel de le remarquer, parce que l'un des signes distinctifs du marivaudage, ça n'est pas le vaudeville, c'est un usage tout à fait paradoxal du principe de décision. Mais pas au sens où vous l'entendez, parce que ce que vous dites là, Paola, c'est qu'au fond, Sylvia... elle oppose sa volonté à son amour. Genre, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que c'est un faquin et que moi je suis une maîtresse, que moi je me suis déguisée en soubrette, mais que lui c'est un vrai faquin, donc je ne peux pas l'aimer. Donc je ne l'aime pas. Ma raison ne m'en permet point d'autre. Hein. Voilà mes dispositions, ma raison ne m'en permet point d'autre. Donc bon, je ne peux pas l'aimer, etc. Mais elle ne décide rien du tout, là. On n'est pas dans la décision, on est dans la volonté. Mais c'est la volonté du fumeur, c'est la volonté de celui qui prétend, à coup de volonté, régenter ses sentiments. Illusion, utopie. Il me semble que le principe de décision, dans tout son paradoxe, dans toute sa puissance, dans tout son génie particulier, se trouve, chez Marivaux, non pas dans le fait d'opposer une volonté rétive à des sentiments qui nous débordent, mais plus subtilement et plus simplement à la fois, dans le fait de présenter comme une décision ce qui relève d'une absence de choix. Je m'explique. Cette pièce décrit l'émergence du mariage d'amour. Lisette à Sylvia lui dit « Comment, vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine ?»« Que sais-je ?» répond Sylvia. « Peut-être ne me conviendra-t-il point, et cela m'inquiète. » Le fait de jeter un doute là-dessus laisse entendre, au fond, qu'on s'approche du mariage d'amour, on sort du mariage arrangé pour entrer dans le mariage d'amour, c'est-à-dire, in fine, dans ce qui conduira, en un sens, sociologiquement, c'est une vérité, au divorce. C'est-à-dire à la possibilité de se séparer quand il n'y a plus d'amour dans le mariage. Ce qui était une idée complètement saugrenue à l'époque incarnée par le père de Sylvia, Orgon lui-même. Mais à la naissance du mariage d'amour correspond, je crois, l'émergence d'un principe paradoxal de décision. Écoutez, Lisette, à un moment, il a tort d'être fat, mais il a raison d'être beau. Elle dit « il a raison d'être beau », comme si être beau relevait d'une décision. Un peu plus loin, Mario, parlant à Bourguignon, dont il sait, lui, qu'il s'agit de Dorante, mais qu'il traite comme un domestique, puisqu'il se présente à lui comme un domestique, Mario, le frère de Sylvia, lui dit « Tais-toi, je te défends d'avoir tant d'esprit », comme s'il avait le choix. Un peu plus loin, Sylvia, déguisée en Lisette, dit à Dorante, déguisée en Bourguignon « Ah, je me fâcherai, tu m'impatientes, encore une fois, laisse là ton amour », réponse de Dorante « Quitte donc ta figure ». Comme si elle pouvait changer de visage, comme si elle avait le choix. Marivaux, je crois tout Marivaux, est dans l'art de présenter comme une décision ce qui relève de la nécessité, ce qui est raccord avec le sentiment qu'on se complique la vie alors que tout est établi d'emblée. Qu'il n'y a aucun suspense. C'est pas une tragédie, mais ça fonctionne de la même manière. Dans Phèdre, on sait dès la première scène tout ce qui va se passer. Et bien là, pareil.
Mais alors, pourquoi ne pas avoir appelé à la pièce les jeux de l'amour et de la nécessité ?
Appeler cette pièce le jeu de l'amour et de la nécessité serait bien plus cohérent, me semble-t-il, que de l'appeler le jeu de l'amour et du hasard, car il n'y a aucun hasard dans cette pièce. Dans le jeu de l'amour et du hasard, il n'y a pas de hasard. Le seul hasard qu'il y aurait dans cette pièce, c'est le fait que Dorante ait eu la même idée que Sylvia. Mais même ça, c'est pas un hasard, puisque Dorante et Sylvia sont faits de la même façon. Donc comme ils sont faits de la même manière, il est normal et en un sens nécessaire qu'ils aient la même idée. Donc même ça, ça n'est pas un hasard. Et tout ce qui se déroule ensuite sous les yeux hilares du père et du frère qui s'éclatent en voyant leur fille prise dans des turpitudes infernales, tomber amoureuse d'un domestique ou de celui qu'elle croit être un domestique, se défendre d'aimer celui qu'elle croit être un domestique, tandis que sa domestique se pique, elle, d'aimer un maître dont elle ignore qu'il est le maître, tout cela, tout ce qui se passe dans cette pièce est absolument nécessaire. Alors, on pourrait faire de l'ontologie et considérer avec Spinoza que c'est indûment qu'on oppose le hasard et la nécessité. Pourquoi pas ? Mais ce qui est important ici, c'est de mesurer tout le chemin que les humains doivent parcourir pour en venir à la seule tautologie qui vaille, à savoir ce qui existe, existe, et ce qui existe ainsi. C'est une nécessité absolue qui s'exerce, mais avec laquelle les protagonistes choisissent de jouer. D'ailleurs, la meilleure preuve de ce jeu, non pas du hasard et de la nécessité, mais de cette dilution de toute forme de hasard ou de contingence dans la nécessité d'une classe sociale ou d'un sentiment émergent, je crois, est incarnée à merveille, il me semble que c'est dans Les Fausses Confidences, et la phrase exacte n'est pas celle-là, mais en substance, Marivaux fait dire à un personnage « Je vous aime, je le décide ». Si ne pas aimer ne peut pas faire l'objet d'une décision ou va d'une volonté, vous savez, c'est la Bruyère, hein. Vouloir ne plus aimer, c'est encore de l'amour. Vouloir aimer encore, ça ne l'est déjà plus. C'est dire à quel point l'amour... La Rochefoucauld ou la Bruyère, chers auditeurs, qui a dit « Vouloir ne plus aimer, c'est encore de l'amour. Vouloir aimer encore, ça ne l'est déjà plus. Le quiz est lancé, on s'en remet à votre science. Je vous aime, je le décide », dit en substance ou fait dire en substance Marivaux à l'un de ses personnages. Cela signifie que s'il n'appartient pas à la volonté de conjurer l'amour, il appartient en revanche à la décision de consentir à l'amour. Et c'est dans, dans cette décision que gît ou que s'éveille ou qu'on exhume toute notre liberté. Notre liberté n'est pas d'opposer notre volonté à nos sentiments, ça c'est pas possible, c'est la promesse d'une défaite. En revanche, notre liberté est dans ce que Camus appellerait le consentement. Au sentiment qui nous porte, je vous aime, je le décide, c'est faire comme si on décidait alors qu'on n'avait pas le choix. C'est pas de la mauvaise foi, si vous voulez, c'est pas la CGT en 68. qui feint d'organiser les événements qui lui échappent pour essayer de récupérer la mise et de capitaliser, si j'ose dire, sur les manifestations étudiantes. Ça n'est pas la princesse Sherbatov qui fait semblant de fuir le monde parce qu'elle n'est invitée à aucune garden parties dans la recherche du temps perdu. C'est pas ça, dire « je vous aime, je le décide ».« Je vous aime, je le décide », ça n'est pas faire comme si on voulait ce qui nous arrive. C'est plus fort que ça. C'est adhérer en profondeur, marcher dans ses pas, dormir quand on dort, danser quand on danse. C'est la vraie liberté. C'est adhérer en profondeur au sentiment qui nous constitue tout entier. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand Mario dit à Sylvia « Tu épouseras Dorante et même avec inclination, je te le prédis », on pourrait avoir le sentiment qu'il s'agit d'un ordre qu'un grand frère donne à sa petite sœur, ce qui est possible dans les familles à l'époque. En réalité, ce n'est pas un ordre, c'est une certitude. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. La nécessité n'est pas coercitive quand on l'épouse, littéralement. Et c'est cela aussi la leçon de son frère. Et c'est fort d'entendre, si vous voulez, ce mélange de transclassisme d'apparat, doublé d'une nécessité absolue qui vient prendre les personnages et les protagonistes à leur propre jeu et, in fine, rétablir l'ordre social.
Ce qui est amusant aussi pour le spectateur, ou de la même façon, pour, parce qu'ils sont à la fois dans la place de spectateur et de metteur en scène, Mario et son père...
Orgon.
Oui. C'est de constater toutes les petites informations qui sont dispersées dans la pièce. Par exemple, le plaisir que prennent les valets, et spécialement Arlequin déguisé en Dorante, à dire « je suis votre serviteur » à Orgon, qui lui est au courant qu'il est justement son serviteur. Mais évidemment, ça dépend du sens qu'on attribue à serviteur.
C'est la scène 9 de l'acte 1. « Vous êtes le maître et moi votre serviteur ». Tiens d'ailleurs, on va entendre cette scène parce que c'est une scène intéressante où on découvre le personnage d'Arlequin. Et Arlequin se conduit de telle manière, alors qu'il est habillé en Dorante, Arlequin se conduit de telle manière qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est Arlequin. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est Arlequin, c'est-à-dire qu'il se conduit en valet par-delà la livrée, donnant raison en un sens justement à Sylvia, c'est-à-dire au fait que, en définitive, l'identité sociale l'emporte sur le déguisement. Écoutez la scène.
Oh, mon cher monsieur, je vous demande mille pardons de vous avoir fait attendre. Ce n'est que de cet instant que j'apprends que vous êtes ici.
Oh, monsieur, mille pardons, c'est beaucoup trop. Il n'en faut qu'un seul quand on n'a fait qu'une faute. Au surplus, tous mes pardons sont à votre service.
Je tâcherai de n'en avoir pas besoin.
Vous êtes le maître et moi votre serviteur.
Je vous reconnais bien là.
Et là aussi, on peut revenir encore une fois ressouligner la position de metteur en scène d'Orgon, parce que « je vous reconnais bien là », le terme « reconnaître », qui est très bien à sa place, est aussi un terme de théâtre, de théâtralité.
Vous avez tout à fait raison, Paola. À ceci près que « je vous reconnais bien là » n'est pas dans le texte.
Oh, vraiment ?
Oui, c'est une invention de Michel Etcheverry. C'est un ajout. C'est pas dans le texte. Donc c'est dans la captation du français 1976. Tout ça existe en DVD, très sérieux, rigoureux, magnifique, comédie française. C'est pas dans le texte. Je vous reconnais bien là. C'est un ajout de Michel Etcheverry. Ou alors, il existe une édition du jeu de l'amour et du hasard, mal nommé, dans lequel on trouve cette phrase. Mais à ma connaissance, cette formule, je vous reconnais bien là, n'est pas dans le texte. Or, il a 100 fois raison de l'employer. Il y a vraiment des ajouts pertinents. C'est-à-dire qu'il offre à l'exégète, au commentateur, à l'amoureux de cette pièce, aux amoureux de cette pièce que nous sommes, une matière grise, formidable. Je vous reconnais bien là. C'est tout l'enjeu. Le valet déguisé en maître dit au maître qui l'accueille dans sa maison, « Je suis votre serviteur », formule de politesse dont l'équivocité est évidemment délicieuse ici, puisque c'est le serviteur qui le dit au maître, et le maître disant « Je vous reconnais bien là », ajoute l'équivocité à l'équivocité, en montrant que, bien sûr, il le reconnaît là à la fois dans la courtoisie, qui est la sienne, puisque dire « Je suis votre serviteur », c'est bien, il le reconnaît là dans le fait que Arlequin déguisé en Dorante se conduit évidemment en Arlequin, et qu'il n'y a aucun problème, on le reconnaît sous son masque, à la façon dont on reconnaît l'enfant sous une couverture blanche quand il joue au fantôme, si vous voulez, on le reconnaît bien là, il n'y a pas de problème. Et dans le même temps, dans les deux cas, enfin, dans toute la pièce, l'enjeu, c'est celui de la reconnaissance. C'est celui de reconnaître ses sentiments, de les avouer, de se les avouer à soi-même, de reconnaître les sentiments qu'on peut porter à quelqu'un qui n'est pas de sa condition. Même si les sentiments que cette personne-là éveille viennent du fait qu'en réalité, il est de la même condition que celui qui les aime, que celui qui l'aime. Donc, reconnaître cela, c'est le fait de reconnaître un individu par-delà le déguisement qu'il endosse, et c'est le fait d'être reconnu, non pas pour ce qu'on aime et pour ce qu'on paraît, devant ceux qu'on est censé duper ou tromper. Donc, le mot-clé de cette pièce... L'un des mots-clés de cette pièce, c'est évidemment la question de la reconnaissance. Et la question de la reconnaissance, elle apparaît à l'occasion de ces jeux de mots. « Je suis votre servante et moi votre valet », se disent l'un à l'autre Lisette et Arlequin une fois qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont effectivement elle servante et lui valet. Et donc ils se désignent l'un l'autre comme ce qu'ils sont. De la même façon, Orgon, coup de génie de Michel Etcheverry, déclare, et disons que cette phrase fait partie de la pièce après tout, puisqu'elle est dans la captation du français et ça fait jurisprudence, on rajoute une ligne au texte de Marivaux, puisque l'acteur l'a fait, « Je vous reconnais bien là ». C'est une trouvaille formidable qui, à mon avis, éclaire l'ensemble de la tragédie.
De même, mais dans une mesure un peu moindre, lorsqu'au début de la pièce, Sylvia, déguisée donc en Lisette et qui assiste à la rencontre, enfin à l'arrivée de Bourguignon et de Arlequin Dorante, se dit en s'en allant, en s'en retournant dans les appartements de sa maîtresse, bref, elle dit « Aucun de ces deux hommes n'est à sa place ».
Ah oui,
elle aucun n'est pas dupée, deux... alors que elle n'est pas dupée au début, puis elle se laisse. Ou alors je ne sais pas vraiment, ça me laisse.
Non, parce que elle ne peut pas imaginer. Comme souvent, quand on se prend pour le centre du monde, si vous voulez, on a du mal à penser qu'il y ait d'autres centres à notre propre périphérie. Ou que d'autres aient eu la même idée que soi. Quand on trouve qu'on a eu une bonne idée, on a du mal à penser que d'autres aient pu l'avoir. Donc elle n'a aucune idée que Dorante et Arlequin ont eu la même idée que Lisette et Sylvia, enfin qu'elle-même et Lisette. Elle n'a aucune idée de cela. Elle ne se le représente pas du tout. Elle a des yeux pour voir. Et elle assiste au spectacle, pour le moins incongru et baroque, d'un maître hyper vulgaire, extraordinairement mal élevé, qui ne connaît, dont les mauvaises manières apparaissent à mesure qu'il essaie d'employer le langage de ses maîtres. C'est-à-dire que plus il essaie de faire maître, plus il a l'air d'un domestique, donc plus ça se voit. Le spectacle incongru de cet individu et de son domestique qui, lui, a des manières parfaites, qui plus est bien fait de sa personne et porte en lui toute l'élégance de sa condition. Donc, elle est celle qui a là, sous les yeux, un spectacle incongru. Quand elle dit « aucun de ces deux hommes n'est à sa place », elle ne veut pas dire qu'elle sait qu'ils se sont déguisés. Quand elle dit « aucun de ces deux hommes n'est à sa place », elle dit « c'est quand même bizarre, ces gens-là n'ont pas le comportement conforme à leur étiquette. Ils ne se conduisent pas conformément à leur étiquette. Bergson, nous ne voyons pas les choses mêmes, nous voyons les étiquettes qu'on a posées sur elles. » Eh bien là, à celui qui voit les étiquettes qu'on a posées sur les choses plutôt que de voir les choses mêmes, la réalité, par le biais du déguisement, donne une leçon de réalité justement. C'est-à-dire que, dans la vie, ordinairement, au quotidien, on ne voit pas les choses mêmes, on voit les étiquettes qu'on a posées sur elles, sauf quand la réalité se charge par elle-même d'enlever les étiquettes, ou plus exactement, de montrer à quel point une étiquette n'est qu'une étiquette, et à quel point il y a quelque chose de plus là-dedans. C'est plutôt à cela, me semble-t-il, que Sylvia fait droit quand elle dit « aucun de ces deux hommes n'est à sa place », même s'il y a dans cette phrase-là encore le conservatisme de Sylvia, derrière lequel elle a besoin de se réfugier pour se défendre de tomber amoureuse d'un laquais.
Il y a plusieurs épaisseurs de réalité, en fait, de réel dans cette pièce. Un petit peu à la façon dont Clément Rosset parle dans son livre « Le réel et son double ».
On ne peut pas entrer dans le détail exhaustif de l'étude que Clément Rosset propose du marivaudage. Mais voilà ce qu'il dit. Les personnages du théâtre de Marivaux mettent toujours un très long temps à se décider à se dire enfin « je t'aime », qui termine généralement la pièce. Comme si l'essentiel de l'intrigue de ce théâtre consistait dans l'intervalle qui sépare la reconnaissance de l'amour de cette victoire sur l'amour propre qui culmine dans l'aveu. En réalité, dit Rosset, cet intervalle existe chez Marivaux, mais il est très court et ne compte guère. L'essentiel du débat est ailleurs. Il ne concerne pas tant la question de l'aveu, savoir s'il faut dire ou ne pas dire qu'on aime, que celle de la reconnaissance, et même de la connaissance en général. Ce que Rosset pointe dans son étude de Marivaux, c'est le fait que les choses ont besoin de masques pour se montrer comme elles sont. Il faut être bête comme Rousseau pour considérer que la condition de la vérité, c'est la suppression du déguisement. C'est-à-dire pour opposer de façon si sommaire, si absolutiste, la vérité et l'imposture, au point de croire que... les opposer au point de croire que quand on met un déguisement, c'est qu'on ment, quand on joue un rôle, c'est qu'on ment. C'est-à-dire, il faut n'avoir aucune conscience du fait qu'il arrive parfois qu'on se prenne pour le personnage qu'on joue et que par conséquent, on devienne le personnage qu'on a commencé par contrefaire. Il faut n'avoir aucune sensibilité ne pas entrevoir le fait que la meilleure façon pour la réalité de se révéler, c'est de commencer par se dissimuler, c'est de commencer par s'abriter. La meilleure façon pour les maîtres de se reconnaître comme tels, c'est de commencer par s'habiller en domestique. Tout cela n'est qu'une métaphore, ça pourrait être une métaphore d'un rapport à l'ontologie même du monde. La meilleure façon de découvrir le monde, la meilleure façon de regarder le soleil, c'est de mettre des lunettes de soleil, sinon ça vous brûle les yeux. La meilleure façon d'éveiller le désir de quelqu'un, ça n'est pas de se déshabiller complètement. L'érotisme, pourquoi on dit que l'érotisme est plus désirant ou éveille davantage le désir que la pornographie, c'est un lieu commun. En quoi le dit-on? C'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce serait le cas? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que l'érotisme est un jeu de révélation par dissimulation. L'enjeu, encore une fois, c'est le réel et c'est la possibilité de l'accepter. Mais c'est une erreur de confondre le réel et la nudité. C'est une erreur de confondre le réel et la crudité. C'est une erreur de confondre le réel et la suppression des masques. Pourquoi c'est une erreur? Parce que celui qui enlève un masque, ou celui qui prétend enlever les masques, porte le masque de celui qui les enlève, en définitive. Donc, on sort jamais véritablement de ce jeu de masques, sauf chez Marivaux. Sauf chez Marivaux. Chez Marivaux, il y a un moment où on se reconnaît pour ce qu'on est, et non plus pour se comparer. Il y a cet optimisme-là, chez Marivaux. Et c'est un optimisme qui est au service d'un retour de l'ordre social. C'est-à-dire que les valets restent les valets, et les maîtres redeviennent les maîtres. C'est ça qui est intéressant, je crois, dans cette pièce, passionnant, c'est que c'est une pièce où il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Enfin, tout ce qui se passe, ce ne sont que des variations autour d'une fantaisie qui se referme d'elle-même sur la préservation de l'ordre social qui était déjà garanti au début. Donc c'est une pièce où il ne se passe rien. C'est une pièce, mais quand il ne se passe rien, c'est que c'est pas au sens de la cerisée, si vous voulez. Mais on est dans l'action pure. Il y a des tas de péripéties. Il y a des tas de péripéties qui se referment à la façon dont un film, un livre ou une boîte à musique se referment sur la préservation de ce qui était acquis dès le départ. Et est-ce qu'au fond, voilà, est-ce que le conservatisme social, c'est le nom politique de cet immobilisme qui est le propre de la pièce? Au fond, faut-il entendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les valets restent les valets et les maîtres deviennent les maîtres ou redeviennent les maîtres, derrière l'idée que cette pièce tente de découvrir et de préserver les choses comme elles sont, et qu'en fait, Marivaux emprunte une infinité de masques pour que chacun retrouve le seul visage qui ait jamais été le sien? On peut l'entendre comme ça. Moi, je l'entends pas de cette façon-là. J'ai tendance à considérer dans cette pièce que l'espèce de nécessité qui est à l'œuvre dans cette pièce et qui fait que chacun finit par reprendre son rôle ne relève pas tant de la préservation délibérée d'un monde dont le XVIIIe siècle commence à contester les privilèges et le fonctionnement que d'un double constat. Constat numéro un, on peut et on doit jouer et se jouer des grandeurs d'établissement. On doit se moquer des grandeurs d'établissement. Mais en revanche, on ne peut pas tricher sur son caractère. Donc ça, il me semble que c'est plutôt ça qui est là-dedans. C'est-à-dire que la vie est si claire qu'on ne se cache que sous des déguisements. Quand les déguisements tombent, quand la parenthèse enchantée se referme, la nature reprend ses droits. Et la deuxième morale, si morale il y a dans cette pièce, me semble-t-il, est dans le fait que le chemin, c'est Heidegger qui dit ça, Le chemin des choses proches, pour nous autres hommes, est de tout temps le plus long et, pour cette raison, le plus difficile. Autrement dit, rien n'est plus loin de nous que ce qui est tout près. D'ailleurs, toute cette ambivalence, me semble-t-il, entre le conservatisme social, lecture en termes de conservatisme social, ou bien lecture en termes ontologiques, littéralement, du théâtre de Marivaux, toute l'ambivalence est contenue dans la phrase d'Arlequin, qui est une tautologie. Il dit « Ah, les sottes gens que nos gens !» Ce qui est la phrase d'un mauvais maître, au fond. C'est la phrase d'un mauvais maître, c'est la phrase d'un maître qui a l'âme d'un laquais. Et c'est ça qui est antipathique chez Marivaux, c'est-à-dire quand on est un laquais, on a l'âme d'un laquais. Mais en même temps, on peut tirer le théâtre de Marivaux du côté de l'idée que avoir l'âme d'un laquais, c'est faire le calcul de son intérêt dans le mariage qu'on se propose. Ce qui veut dire que l'âme de laquais, tout le monde l'a en partage. Nietzsche saura s'en souvenir quand il explique qu'il ne suffit pas d'être fort pour être puissant, ni d'être grand pour être grand, justement. On peut être grand tout en ayant l'âme toute petite. Ah, les sottes gens que nos gens. À la fois, c'est une tautologie. Bon, les gens sont les gens. Et dans le même temps, c'est une tautologie dépréciative. Les sottes gens que nos gens. Et à cela s'ajoute le fait que c'est Arlequin qui parle de lui-même. Puisque c'est Arlequin qui, lui-même, est un gens, c'est un domestique. C'est quelqu'un qui obéit à son maître. Donc, c'est de lui qu'il parle. Mais c'est de lui qu'il parle en contrefaisant ce que lui-même imagine que les maîtres disent de lui. Donc, cette pièce tellement simple, dont la trame est tellement simple, et où, en définitive, il ne se passe rien, ou en tout cas, rien ne change. Oui, Paula.
Un peu à la façon d'un chimiste qui mélangerait dans une éprouvette plusieurs métaux, etc., et qui arriverait à la fin à une solution qui serait semblable à celle du départ.
Ouais, mais je crois pas, parce que voulez-vous, c'est la seconde loi de la thermodynamique. Si vous faites une mayonnaise, par exemple, et que vous voulez défaire votre mayonnaise, vous pouvez vous accrocher pour retrouver l'œuf et l'huile. Si vous mélangez les choses, vous pouvez vous accrocher pour démélanger les choses que vous avez mélangées. Or ici, c'est un mélange pour de faux. On se mélange pas en fait. On se mélange jamais, puisque les maîtres deviennent les valets ensemble et de concert. Et les valets deviennent les maîtres ensemble et de concert. Il n'y a pas de mélange, il y a juste l'illusion vertigineuse, considérable, extraordinaire. Vraiment le vertige d'un mélange possible. Le vertige qui étreint Sylvia quand elle se dit « Nom de Dieu, si j'ose dire, je suis amoureuse de Bourguignon, un laquais. » Bon, il est beau, il se tient bien, mais enfin, c'est Bourguignon! Qu'est-ce que c'est que ce chaos? C'est ce vertige-là, au fond, on joue avec ça. Comme Lisette qui dit « Nom de Dieu, je vais épouser un maître, c'est formidable, c'est merveilleux. » Il se grise un instant à la possibilité du mélange, mais de mélange, il n'y a pas. On n'est pas dans le mélange, dans Marivaux. On n'est pas dans le mélange, on est dans le maintien de ce qui est. On est dans la conservation de ce qui est, incontestablement. Et cela concerne les maîtres, comme, évidemment, les valets.
True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end.
Merci Paola, merci à tous. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. Merci à Olivier Dupré à la technique, à François Connac à la réalisation. Voilà ce qu'en peu de mots nous pouvions dire du jeu de l'amour et du hasard, étrangement nommé, qu'on aurait pu appeler le jeu de l'amour et de la nécessité, de ce marivaudage en tout cas, dont l'extravagance consiste à la fin dans l'immobilisme. On se retrouve aussi sur internet, évidemment, à la page du Gai Savoir, où vous attendent bibliographies, téléchargements, écoutes en ligne, ainsi que sur Facebook, où vous attendent rigoureusement les mêmes choses. Enfin, deux conseils pour finir, un conseil de lecture d'abord. C'est l'excellent dossier sur Saint-Augustin, ourdi par Jean-Luc Marion et Étienne Klein dans Philosophie Magazine. Et un conseil aux auditeurs attentifs que vous êtes, un conseil superflu, celui d'écouter Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, qui tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi vous offre, vous propose la plus inventive des philosophies. 17h sur France Culture. Dans un instant, l'Atelier du Pouvoir.